Les chaînes. Le monde tout entier aspire à la liberté et pourtant chaque créature est amoureuse de ses chaînes. Tel est le premier paradoxe et l'inextricable nœud de notre nature. L'homme est amoureux des liens de la naissance aussi se trouve-t-il pris dans les liens jumeaux de la mort. Dans ses chaînes, il aspire à la liberté de son être et à la maîtrise de ses propres, de son propre accomplissement. L'homme est amoureux du pouvoir. C'est pourquoi il est soumis à sa faiblesse. Car le monde est une mer et ses vagues de force se heurtent et déferlent sans fin les unes contre les autres. Celui qui veut chevaucher la crête d'une de ces vagues doit s'effondrer sous le choc de 100 autres. L'homme est amoureux du plaisir. Aussi doit-il subir le joug du chagrin et de la douleur. Car la félicité sans mélange n'existe que pour l'âme libre et sans passion. Mais ce qui dans l'homme est à la poursuite du plaisir est une énergie qui souffre et qui peine. L'homme est assoiffé de calme, mais il a faim aussi des expériences d'un mental agité et d'un cœur inquiet. Pour son esprit, la jouissance est une fièvre, le calme une monotone inertie. L'homme est amoureux des limitations de son être physique et cependant il voudrait avoir aussi la liberté de son esprit infini et de son âme immortelle. Et quelque chose en lui éprouve une curieuse attraction pour ces contrastes. Ils constituent pour son être mental l'intensité artistique de la vie. Ce n'est pas seulement le nectar, mais le poison aussi qui attire son goût et sa curiosité.
Que veut dire intensité artistique?
Pour la plupart des hommes, ce qu'ils appellent artistique, c'est justement les contrastes. Les artistes disent et sentent que ce sont les ombres qui font les lumières. Que s'il n'y avait pas de contraste, il ne pourrait pas faire de tableau. La même chose pour la musique. Ce sont les contrastes entre les fortes et les pianos qui font un des plus grands charmes de la musique. J'ai connu des poètes qui disaient c'est la haine de mes amis, de mes ennemis, qui me fait apprécier l'affection de mes amis. Et c'est la possibilité presque inévitable du malheur qui donne toute sa saveur au bonheur, et ainsi de suite. Et le repos, il ne l'apprécie qu'en contradiction avec l'agitation quotidienne. Le silence qu'à cause du bruit général. Et même, il y a certains qui vous disent « Oh, c'est parce qu'il y a les maladies qu'on aime la bonne santé. » Ça arrive au point qu'on apprécie quelque chose que lorsqu'on l'a perdu. Et comme il dit ici, quand il n'y a pas cette fièvre d'action, de mouvement, cette agitation de la pensée créatrice, on a l'impression qu'on tombe dans une inertie. La majorité des gens craignent le silence, le calme, la tranquillité. Ils se sentent plus vivre quand ils ne sont pas agités. J'ai vu bien des cas où Shri Aurobindo avait donné le silence à quelqu'un, avait fait taire son mental. Et cette personne, revenir à lui avec une sorte de désespoir, en lui disant « Mais je suis devenu stupide. » parce que sa pensée n'était plus agitée. Ce qu'il dit là est terriblement vrai. Les hommes veulent la liberté, mais ils sont amoureux de leur chaîne. Et quand on veut les enlever, quand on veut leur montrer le chemin de la vraie libération, ils ont peur et même souvent ils protestent. Presque toutes les productions d'art, littéraire, poétique, artistique, de l'homme, sont basées sur la violence des contrastes dans la vie. Quand on essaye de les tirer de leur drame quotidien, ils ont vraiment l'impression que ce n'est pas artistique, S'il voulait écrire un livre ou composer une pièce de théâtre où il n'y aurait aucun contraste, où tout serait harmonieusement pur et beau, où il n'y aurait pas d'ombre dans le tableau. Ce serait probablement quelque chose qui paraîtrait très terne, très monotone, sans vie, parce que ce que l'homme appelle la vie, c'est le drame de la vie, c'est l'anxiété de la vie, c'est la violence des contrats. Et peut-être, s'il n'y avait plus de mort, il serait terriblement fatigué de vivre. À propos de ce que j'ai dit dans une des classes précédentes, on m'a posé une question. Les difficultés et les obstacles que l'on rencontre sur le chemin lorsqu'on veut atteindre un certain but, sont-elles un signe, parfois, que cette décision, ce plan ou ce projet était fautif dès le départ, et donc il ne faut pas persister, ou au contraire, ces difficultés indiquent-elles une victoire à remporter, une transformation à accomplir, sont-elles un signe qu'il faut persévérer et tenir bon? Je ne parle pas ici de la décision de suivre le chemin du yoga, mais de petites choses relatives au travail, au sport ou autres activités. En d'autres termes, comment reconnaître et interpréter la direction qui vient à travers les circonstances ou les relations avec autrui et l'expérience? Je crois que cette contradiction et seulement apparente. Si l'on veut suivre une discipline de yoga, naturellement, c'est avant d'entreprendre quelque chose qu'il faut tâcher de discerner et de savoir si l'inspiration que l'on reçoit est une inspiration réelle venant du divin ou bien si c'est tout simplement une réaction aux circonstances extérieures et une impulsion soit vitale soit mentale. Il est assez important, il est même très important, d'essayer de discerner ces choses et d'agir en toute connaissance de cause. Mais il est un très grand nombre de choses que l'on fait et pour lesquelles on n'a pas l'habitude de réfléchir avant de les faire, quand la circonstance vient. On y obéit, pour ainsi dire. Et au fond, ces choses-là, comme presque tout ce que l'on fait dans la vie, n'ont pas d'importance en elles-mêmes. La seule chose qui importe, c'est l'attitude avec lesquels on les fait. Que l'on fasse quelque chose parce que cette chose s'est trouvée devant vous pour une raison ou pour une autre, et que on est pour ainsi dire toujours obligé d'agir tant qu'on est dans la vie extérieure. A une certaine importance au point de vue de la conduite de la vie si ce sont des actes qui peuvent avoir des conséquences assez profondes dans l'existence, comme par exemple de se marier ou d'aller vivre dans un endroit ou dans un autre ou de prendre une certaine occupation ou une autre. Ce sont des choses qui sont généralement considérées comme importantes qu'ils le sont dans une certaine mesure. Mais même celles-là, tout dépend beaucoup plus au point de vue du yoga, de l'attitude que l'on prend, que de la chose que l'on fait elle-même. Et alors, surtout, pour tous les tout petits actes de la vie quotidienne, l'importance est réduite au minimum. Il y a certaines personnes scrupuleuses qui se posent des problèmes et qui ont une grande difficulté à les résoudre parce qu'elles se posent le problème mal. J'ai connu une jeune femme qui était théosophe et qui essayait de pratiquer et qui m'a dit: on nous enseigne que c'est la volonté divine qui doit prévaloir dans tout ce que nous faisons. Mais le matin, quand je prends mon petit déjeuner, comment savoir si Dieu veut que je mette deux morceaux de sucre dans mon café ou un seul? C'était touchant, n'est-ce pas? Et j'ai eu quelques peines à lui expliquer que l'esprit dans lequel elle boirait son café au lait, l'attitude qu'elle avait vis-à-vis de la nourriture qu'elle prendrait était beaucoup plus importante que le nombre de morceaux de sucre qu'elle mettrait dedans. Il en est ainsi de toutes ces petites choses que l'on fait à chaque minute. La conscience divine n'agit pas à la manière humaine. Elle ne décide pas du nombre de morceaux de sucre que vous mettrez dans votre café. Elle vous place dans une certaine attitude vis-à-vis des gestes, des choses. Une attitude de consécration, de souplesse, d'adhésion, d'aspiration, de bonne volonté, de plasticité, d'effort vers le progrès. Et c'est cela qui compte, beaucoup plus que la petite décision que vous prendrez à chaque seconde. On peut tâcher de percevoir quelle est la chose la plus vraie à faire. Mais ce n'est pas avec une discussion mentale ou un problème mental que l'on peut résoudre ces choses. C'est justement avec une attitude intérieure qui crée une atmosphère d'harmonie progressive dans laquelle tout ce que l'on fera sera nécessairement, dans les circonstances données, la meilleure chose qui pourrait être faite. Et l'idéal serait une attitude assez totale pour que l'acte soit spontanée, dictée par quelque chose d'autre que par une raison extérieure. Mais ça, c'est un idéal auquel on doit aspirer, que l'on peut réaliser au bout d'un certain temps. Jusque-là, le soin de garder toujours l'attitude vraie, l'aspiration vraie, est beaucoup plus important que de décider si on fera la marche gymnastique ou si on ne la fera pas, et si on ira dans une certaine classe ou si on n'ira pas. Parce que ces choses n'ont pas d'importance véritable en elles-mêmes, elles n'ont qu'une importance tout à fait relative. La seule chose importante étant justement de garder l'orientation vraie dans son aspiration et la volonté vivante de progrès. En règle générale, et pour que l'expérience ait son plein profit, quand on a entrepris quelque chose, il faut le faire avec persistance, sans se soucier des obstacles et des difficultés, jusqu'à ce qu'un événement absolument irréfutable vous fasse savoir que vous n'avez plus à le faire. Ceci se passe très rarement. Généralement, les choses suivent leur courbe, et quand elles arrivent à un aboutissement, ou qu'elles sont terminées, ou qu'elles ont apporté le résultat voulu, on s'aperçoit de la raison pour laquelle cela a été fait. Mais les obstacles, les contradictions ou les encouragements ne doivent pas être considérés comme des signes irréfutables qu'il faut suivre. Parce que ces choses peuvent avoir une signification très différente dans des cas différents, et ce n'est pas du tout sur ces événements extérieurs qu'il faut juger de la validité de son entreprise. Quand on est très attentif et très sincère, on peut avoir une indication, pour ainsi dire, intérieure, mais perceptible, de la valeur de ce que l'on a entrepris ou de l'action que l'on est en train de faire. Vraiment, pour celui qui est entièrement bonne volonté, c'est-à-dire qui veut en toute sincérité, avec toute la partie consciente de son être, de faire la vraie chose de la vraie manière. Si, pour une raison quelconque, on s'embarque dans une action plus ou moins funeste, on sent toujours un malaise dans la région du plexus solaire. Un malaise qui n'est pas violent, qui ne s'impose pas dramatiquement, mais qui est très perceptible pour celui qui est attentif. Quelque chose comme une sorte de regret. Comme un manque d'adhésion. Ça peut aller jusqu'à une sorte de refus de collaborer. Mais j'insiste, sans violence, sans affirmation brutale, ça ne fait pas de bruit. Ça ne fait pas mal, c'est tout au plus un petit malaise. Et si vous passez outre, si vous ne faites pas attention, si vous n'y attachez pas d'importance, au bout d'un certain temps, ça disparaîtra complètement et il n'y aura plus rien. Ce n'est pas que cela grandit avec l'erreur croissante. Au contraire, cela disparaît et la conscience se voile. Par conséquent, on ne peut pas le donner comme un signe certain parce que si vous avez désobéi plusieurs fois à cette petite indication, eh bien, elle ne se produira plus. Mais je dis, si en toute sincérité vous y êtes très attentif, alors ce sera un guide très sûr et très précieux. Mais ça, ça se produit au début, presque immédiatement. Et lorsque cela ne se manifeste pas, eh bien, quoi que ce soit qu'on ait commencé, il est préférable de le faire jusqu'au bout pour que l'expérience soit complète, à moins qu'on ne reçoive, comme j'ai dit, une indication absolument précise et catégorique que cela ne doit pas se faire.